Quand on va se confesser, se confesser, rappelez-vous, c'est une activité de toute l'année, hein. C'est pas réservé à des temps particuliers comme le carême ou avant Noël, ça peut même être une résolution, même une activité de rentrée, pour se préparer à cette rentrée. Bref, quand on va se confesser, il peut y avoir quelque chose d'assez déprimant, c'est le sentiment que ce soit toujours la même chose, toujours les mêmes péchés. Mais ça, c'est pas déprimant, heureusement qu'on n'a pas à travailler sur toute la gamme. Il ne s'agit pas d'essayer de faire ce qu'on n'a pas encore fait en matière de péché. Ce n'est pas ça l'objectif. Heureusement que ce sont les mêmes péchés. Et c'est tout à fait normal. Ça correspond à notre caractère, à notre histoire, à nos points faibles, nos faiblesses. Et ça trace justement pour nous un chemin de sanctification, de sainteté. C'est comme ça qu'on apprend à mieux se connaître et qu'on peut travailler. Mieux encore, quand bien même le péché n'aurait pas existé, ne serait pas entré en ce monde, quand bien même la création serait restée dans l'état dans lequel le Seigneur la voulait ou l'a voulu, quand bien même le premier homme, Adam, n'aurait pas chuté et entraîné dans sa chute toute l'humanité, eh bien nous aurions eu de toute façon à changer, à nous transformer, à grandir, à nous dépasser, à sortir, à nous libérer de nos faiblesses pour accomplir, pour épanouir notre humanité. La Vierge Marie, pure de tout péché depuis sa conception, a eu à grandir elle-même, ne serait-ce que grandir dans la foi, à suivre elle-même un chemin de sainteté, de sanctification. Il y a des choses qu'elle ne comprenait pas, il y a des choses qu'elle a dû accepter. C'est une très belle image de ce que peut être, en dehors du péché, indépendamment du péché, le cheminement de la liberté humaine, la réalisation de la liberté humaine jusqu'à son accomplissement. Le plus déprimant quand on va se confesser, c'est de rechuter juste après. Et parfois, vraiment juste après. Un peu de temps après, on dit « Oh là là, il va falloir recommencer ». Alors y retourner, et surtout quand dans la joie, dans la grâce reçue, on baisse la garde, on fait moins attention. Ce n'est pas la confession qui nous préserve du péché. C'est la messe. La confession, enseigne le catéchisme, donne des forces. D'abord nous réconcilie, mais donne des forces pour le combat spirituel. Mais c'est la messe qui nous fait nous rapprocher, qui renforce notre union au Christ, d'abord qui pardonne les péchés de tous les jours, à chaque messe, et qui nous préserve, enseigne toujours l'Église, qui nous préserve des péchés graves. Elle nous préserve des péchés graves, pour autant que, j'allais dire, on ne baigne pas trop dedans, pour autant qu'on ne s'y soit pas habitué, résigné, pour autant qu'on ne se soit pas habitué à, vous savez, vivre dans le péché. Je n'aime pas beaucoup cette expression. Elle a l'avantage d'être parfaitement compréhensible. Elle a l'avantage de préserver ce sens du péché. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'utilise parfois un peu de façon moqueuse. Tant de personnes me disent « Ah, mon père, je vis dans le péché. » Je ne sais pas quel sous-entendu. Qu'est-ce que vous allez en dire? Je vous mets au défi de me le reprocher. Mais je dis rien, c'est l'Évangile qui donne la réponse. C'est Jésus au moment de la Passion qui le dit. C'est toi-même qui le dis. C'est ta conscience qui te parle. La première lecture que nous avons entendue insiste, et elle commence par ce mot, sur la rancune. La rancune. Une notion qu'on aurait tort de considérer comme un trait particulier de caractère. Vous savez, on dit, oh ben non, il y a certaines personnes qui sont rancunières, comme si c'était une dominante et qui serait inconnue chez d'autres. Non, la rancune, c'est le signe, et plus que le signe, le venin. C'est le poison d'une colère très particulière, une colère intérieure. Pas toutes les colères, la colère intérieure est typiquement, et certains d'entre vous la connaissent très bien, la colère contre Dieu. Au fond de lui, le serviteur de cette parabole gardait rancune contre son maître. Rancune de quoi? De la situation où il s'était retrouvé, de la dette astronomique, invraisemblable, qu'il avait amassée. Il gardait rancune d'avoir été amené, probablement de force. C'est pas lui qui avait choisi de venir devant son maître. Il y avait été amené. Et c'est l'inconvénient des confessions obligatoires, des confessions systématiques. Oui, la confession est nécessaire, au moins une fois par an, comme de venir nous rapprocher du Seigneur tous les dimanches, comme de nous conformer, de vivre ensemble les temps de jeûne, comme de contribuer ensemble aux dépenses de l'Église. Mais la confession, elle a besoin, plus encore que tout le reste, elle a besoin de liberté. Parce qu'il s'agit justement de retrouver sa liberté. Or, il a été amené, je vous dis, probablement de force devant son maître, et le serviteur s'est certainement senti humilié, au point de se venger ensuite, dès qu'il l'a trouvé plus petit que lui. Et pourtant, son maître lui avait pardonné. Il lui avait pardonné, c'est ça. Il lui avait remis ses péchés. Dans l'évangile de Saint Matthieu, lorsque Saint Matthieu donne le Notre Père, la cinquième demande du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, Saint Matthieu dit, remets-nous nos péchés, remets-nous nos dettes, littéralement, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Voilà, c'est ça, dans l'évangile de Saint Matthieu, le sens de remettre ses dettes, pardonner. Mais lui, il n'a pas cru. Il n'a pas cru au pardon, pourquoi ? Parce qu'il était déjà enfoncé tellement dans ses péchés, il était déjà dans les péchés qu'il allait commettre. Il était resté dedans, qu'il a commis à peine sorti de chez son maître, lorsqu'il refuse de faire preuve de la même indulgence, de faire aux autres ce que le Seigneur avait fait pour lui. Et nous, légitimement, on peut dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu lui as fait grâce la première fois? Pourquoi est-ce que tu l'as laissé repartir? Seigneur, tu savais qu'il allait se comporter ainsi. Seigneur, tu le savais. C'est la même question que de savoir pourquoi Jésus a appelé Judas, alors que Jésus savait que Judas le trahirait. Et c'est un point très important dans notre compréhension, dans notre connaissance de Dieu. Nous savons que Dieu est omniscient, qu'il y a une omniscience de Dieu, et dans l'omniscience, ce qu'on appelle une prescience. Il sait tout. Mais nous avons tendance à opposer l'omniscience de Dieu, la prescience divine, et la liberté humaine. En disant, mais où est notre liberté puisqu'il sait déjà ce que nous allons faire? C'est se tromper sur Dieu, c'est se tromper sur l'éternité, c'est d'oublier que Dieu ne nous voit qu'au présent. Là, maintenant, aujourd'hui, à l'instant. La grâce de l'instant présent, c'est la présence de Dieu. Il n'y a rien de futur pour Dieu. C'est une affirmation essentielle de saint Thomas d'Aquin, qui a fortement marqué la tradition, mais que nous connaissons insuffisamment. Il n'y a pas de futur pour Dieu. Et on pourrait dire de la même façon, il n'y a pas de passé pour Dieu. Dieu, c'est l'éternel. Il n'y a ni futur ni passé. Pour Dieu, tout est au présent. C'est aujourd'hui. Si vous avez l'occasion, reprenez l'évangile de Saint-Luc, qui est un grand évangile de l'aujourd'hui de Dieu. Vous regarderez les différents passages où il y a ce mot « aujourd'hui ». C'est l'adverbe principal dans l'Ancien Testament du Deutéronome. « Aujourd'hui ». C'est ce que nous vivons avec le Seigneur, l'aujourd'hui de Dieu. Le passé, il ne faut pas imaginer Dieu comme un super ordinateur avec une mémoire exceptionnelle. Le passé, Dieu ne le voit qu'en nous. Notre passé, il le voit en nous. Ce n'est pas une question d'une mémoire de Dieu, d'ailleurs. La Bible insiste beaucoup sur l'oubli de Dieu. Dieu oublie. Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Dieu n'a ni passé ni futur. Il voit notre passé tel qu'il est inscrit en nous. Soit comme autant de bénédictions, soit comme autant de blessures dont il doit nous guérir. Et notre futur, de la même façon, il ne le connaît qu'au moment où ça devient notre présent. Et lorsque nous venons nous confesser, Dieu ne fait pas de supputation sur ce que nous allons faire. Dieu ne s'inquiète pas de nos défaillances à venir. Et la réalité, la grandeur du pardon de Dieu, c'est qu'il est absolu. sans procès d'intention, sans arrière-pensée, sans supputation, sans aucune rancune. Dieu n'est pas un surveillant qui serait là comme ça à épier ce que nous allons faire. Il est notre Père, le seul Père qui ne soit qu'amour, le Père de toute miséricorde, qui veut à chaque instant, dans l'instant, aujourd'hui, nous aider à grandir en liberté et en charité. Dieu nous voit dans l'instant présent. Dieu nous aime maintenant.